cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans notre émission Cultivons notre jardin, présentée par Nat et Jackie. Salut Jackie, comment vas-tu?
Eh bien bonjour, bonjour à tous, bonjour à toi, ça va très bien pour une nouvelle émission. Donc, et toi, comment ça va?
Bien, avec le soleil presque.
Presque, hein?
Presque, presque, presque. Enfin, on a eu un petit peu de beau et on l'a bien pris, c'était chouette. Alors, Jackie, de quoi comptes-tu nous parler aujourd'hui?
Eh bien, je vais vous parler de la grève d'automne. Et je crois que toi, tu as aussi préparé quelque chose sur les plantes bio-indicatrices. Donc, on va sans doute en parler ensemble.
Oui, intéressant cette histoire de plantes bio-indicatrices. Nous vous raconterons un petit peu avec Jackie. Voilà, voilà. Sachez que pour écouter ou réécouter nos émissions, elles sont toutes disponibles sur le site internet. Et sinon, les horaires de diffusion, c'est le jeudi comme aujourd'hui à 12h30 et en direct. Et le dimanche matin, elle sera rediffusée à 9h10. Voilà, voilà.
Alors, on va peut-être démarrer sur la grève d'automne.
Ce serait pas mal. Allez, hop, au boulot, Jackie.
Voilà. Dès qu'on parle grève, tout le monde pense aux grèves de printemps, en fait. Hein. Pour beaucoup de gens, la grève, c'est une opération qui se passe au printemps.
Opération, c'est le mot. Moi, je pense à moignon quand on parle de grève. Mais bon, chacun son truc.
Voilà, c'est de la chirurgie. Hein. Chirurgie, opération, on n'est pas loin. Alors, à la limite, quelques personnes savent aussi que ça peut se faire des greffes en écusson, par exemple, autour du 15 août.
Ça, donc, c'est la greffe noble qui se fait en écusson.
Voilà, hein, déjà, donc on est presque en fin d'été, hein, après le 15 août, ça se fait. Mais il faut savoir qu'on peut aussi greffer alors, en automne. Et donc, le moment est plutôt le bienvenu. La greffe d'automne, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Si je greffe en automne, le seul inconvénient, c'est qu'il va falloir attendre le printemps pour savoir si vraiment ça a bien pris.
Et oui.
Tout simplement parce que les greffes d'automne, c'est ce qu'on appelle à œil dormant, c'est-à-dire que le bourgeon qui est sur mon greffon, eh bien, il ne va s'exprimer qu'au printemps suivant. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à la greffe d'automne. Premier avantage, c'est que on peut tirer nos greffons directement et les greffer le même jour.
Hein, tirer nos greffons, tu peux traduire ça?
Couper nos greffons, prélever.
Hein, voilà,
prélever en fait, prélever nos greffons. Mm-hmm. Précaution quand même à prendre quand il y a encore des feuilles. Immédiatement après avoir prélevé mon greffon, je coupe toutes ces feuilles en laissant les pétioles sur le greffon. Je le mets dans l'humidité et puis je me dirige vers mon porte-greffe où je peux garder ça au frigo pendant 2 ou 3 jours.
Et alors, en fait, on enlève toutes les feuilles du greffon pour pas que ça le fatigue inutilement, c'est bien ça ?
C'est pas une histoire de fatigue, c'est qu'en fait, c'est surtout pour qu'il ne transpire pas, pour
d'accord,
qu'il n'y ait pas d'évacuation de la sève par les feuilles.
D'accord. Hein,
donc, je vais garder un maximum de sève dans mon greffon, c'est ce qui permettra aussi la reprise. Alors, l'intérêt de greffer à cette époque-là, c'est aussi que je peux greffer soit l'anglaise, soit en fente. Donc des greffes qui se pratiquent aussi au printemps, mais je peux le faire directement. J'aurai pas mes greffons à conserver jusqu'au printemps suivant. Hein, je rappelle que jadis on mettait les greffons dans de la terre humide ou du sable au nord. Depuis quelques années, avec les hivers très tièdes qu'on a, il faut mettre tout ça au frigo. C'est pas toujours très pratique. Alors, un dernier avantage, c'est surtout pour les arbres à pépins. À noyaux, pardon. Évidemment, c'est toujours comme ça. Les arbres à pépins, ils cicatrisent très bien, donc ça peut aussi bien se faire au printemps qu'à l'automne. Mais les arbres à noyaux qui ont des difficultés pour cicatriser, quand on leur fait des greffes de printemps, il va d'abord falloir qu'ils cicatrisent sur l'opération, donc, hein, comme on disait tout à l'heure, l'opération chirurgicale qu'on a faite. Mm-hmm. Donc, relier les tissus entre le porte-greffe et le greffon. Et en plus, il va falloir que directement derrière, eh ben, la sève serve à alimenter nos bourgeons pour que déjà la greffe pousse. L'avantage de le faire à l'automne, c'est qu'en fait, je n'ai besoin que de la cicatrisation au niveau des tissus de mon porte-greffe et de mon greffon. Et en fait, comme c'est à œil dormant, donc ça veut dire que la pousse ne se fera qu'au printemps suivant. J'ai donc besoin de peu de sève pour arriver à faire la cicatrisation, et ce qui assure plus facilement la greffe.
Ouais, donc en fait, si on greffe à l'automne, l'arbre il va se contenter de faire la cicatrisation, donc une seule tâche à la fois, parce que la sève est quand même descendante. Et ensuite, quand ça sera le printemps et que la sève va remonter, ça va lancer notre greffon, c'est ça ?
C'est ça. Ça va directement, les greffons vont être alimentés directement, hein, puisque ça va passer entre le porte-greffe et le greffon, puisque c'est une opération qui aura été faite à l'automne. Donc, en fait, alors pourquoi c'est important pour les arbres à noyaux ? Parce que ce sont des arbres qui cicatrisent mal. Donc, il va falloir obligatoirement avoir un moment de greffe où on va utiliser peu, finalement, de ces ressources de cicatrisation. Voilà, je pourrais le dire comme ça.
Et ça va cicatriser tranquillement. Et puis après, quand ce sera le moment de la montée de sève, on passera à l'autre étape. Donc du coup, ça permet de greffer en douceur, on peut dire ça ?
Oui, c'est ça, en douceur, à tel point que je ne vais même pas tailler le porte-greffe. Hein, si j'ai des branches sur ce porte-greffe, si j'ai donc des prolongements qui sont... ou si je n'en greffe qu'une partie, par exemple. Hein, je peux, par exemple, moi, je l'ai fait dernièrement là, sur des cerisiers où j'avais 4 ou 5 branches. Bah, j'ai greffé 2 des branches. Et j'ai laissé complètement l'arbre dans sa totalité, à part les 2 branches que j'ai coupées, se développer normalement. Ce qui veut dire qu'au printemps, quand tout ça va démarrer, je vais avoir une montée de sève qui va se faire, hein, avec les branches, surtout avec les branches auxquelles j'ai pas touché. Donc c'est ce qu'on va appeler des tire-sèves. Mm-hmm. Et en fait, tranquillement, la sève va aussi monter dans mes greffons. Et quand je vais voir mes bourgeons qui vont bien commencer à gonfler, qui sera donc le signe que la sève monte bien, eh ben je pourrais tailler le reste des branches et privilégier, par exemple, ces 2 branches que j'ai greffées.
D'accord. Voilà. Parce que dans nos contrées élevées, de toute façon, il vaut mieux pas tailler avant l'hiver. C'est quand même mieux de le faire après, non ?
Non, parce que normalement, les arbres à noyaux, on les taille à l'automne.
Soit à noyaux, effectivement, voilà. Mais les autres...
Les arbres à pépins, on peut jusqu'au printemps, jusqu'au gonflement des bourgeons.
Oui.
Alors après, il reste l'époque, hein, aussi. Donc l'époque actuellement, moi, j'en greffe. J'ai une expérience que j'ai faite l'année dernière où j'ai greffé. Alors là, c'était du pommier pour des circonstances un peu exceptionnelles. On avait trouvé une variété de pommes assez rare. Donc des greffons m'ont été confiés. J'allais me faire opérer des épaules début novembre. Donc j'ai reçu ces greffons le 2 novembre. Le 2 novembre, je les ai greffés. Donc sur des porte-greffes sur un arbre qui me porte des greffons comme ça, une branche, hein, d'un diamètre de 6-8 mm à peu près. Donc j'ai pu faire une greffe à l'anglaise directement comme ça. Dans l'année, ça m'a fait des pousses de 80 cm. Donc voilà, greffe du 2 novembre. Je me disais, c'est bien tard, est-ce que ça va fonctionner ? Eh bien, ça n'a pas posé de problème. Il faut dire effectivement que c'était sur de l'arbre à pépins, donc qui cicatrise bien quand même.
Et puis qu'on a eu un hiver doux, l'hiver dernier,
voilà,
hein, quand même.
On a eu un hiver doux, et ouais. ça rentre effectivement aussi en ligne de compte. Mais disons que là, ben voilà, on a tout l'automne pour pouvoir greffer. prélever. Alors, quand vous prélevez en dehors de chez vous, prenez une glacière, par exemple. Moi, je fais comme ça. Je vais donc à un endroit où je connais un arbre intéressant par les caractéristiques de ses fruits. Et puis, dans cette glacière, j'ai une petite bouteille d'eau. Je prélève mes greffons. Donc, du bois de l'année, je coupe les feuilles en laissant les pétioles et je mets tout ça dans ma glacière, histoire d'assurer une humidité et du frais. Et quelques jours après, je peux greffer.
Ok, donc toi, tu vas te balader dans la nature, entre guillemets, pour aller prélever des greffons. Donc, tu nous dis le bois de l'année, mais comment le néophyte fait pour comprendre qu'est-ce qu'il doit prélever ?
Alors, le bois de l'année, en fait, il va avoir une couleur au niveau de l'écorce, une couleur légèrement différente. Souvent, l'écorce devient marron foncé, voire noir, et le bois de l'année, je dirais, il est plutôt beige comme couleur. Dites-vous bien que le bois de l'année, ça va être entre au minimum 1 ou 2 millimètres. On va en voir très, très peu. Donc, dans ce cas-là, je ne pourrais pas prendre de greffon. Ça peut se passer sur des vieux arbres qui n'ont pas eu beaucoup d'humidité cet été, par exemple. Mais ça peut aller jusqu'à 80 cm, 1 mètre, s'il est dans un bon endroit, que la pousse ou qu'il a été arrosé et que la pousse a été très évidente cette année. Donc, on le voit bien, une couleur différente. Regardez bien. On prend des greffons. A priori, quand on a la chance de pouvoir choisir, de la taille d'un crayon à papier à peu près.
Et on coupe, claque, à ce qui nous semble être la jonction entre le vieux bois et le bois de l'année ?
Voilà, absolument. Okay. Absolument. Et on n'utilisera pas le bout du greffon, l'autre bout, que je pourrais dire, l'extrémité haute du greffon, parce qu'en fait, là, le bois est moins ahouté, donc ça marchera moins bien au niveau de la greffe. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la greffe d'automne.
Le tour de la greffe d'automne, donc, sur nos arbres à noyaux. Très bien. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on avait imaginé ? On avait imaginé vous parler des plantes bio-indicatrices également. Tu connais ça, toi, Jackie, j'imagine ?
Oui. Alors, il me semble même qu'on avait dit qu'on ferait ça après la pause musicale.
Donc, comme tu as été un peu vif...
On va le faire
une
maintenant.
Une fois n'est pas coutume. D'habitude, c'est toujours moi qui suis énervée. Aujourd'hui, c'est toi, Jackie. Chacun son tour. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait parler. On peut planter aussi. Mais non, le principe de la plante bio-indicatrice, c'est qu'on regarde ce qui pousse naturellement. Effectivement, chaque jardinier sait que connaître son sol permet non seulement de cultiver les espèces les plus adaptées, donc ça c'est plutôt intelligent, mais aussi d'apporter les amendements nécessaires en bonne quantité et de prévenir les carences éventuelles. Parce que bien évidemment, chaque type de sol va avoir des besoins différents en termes d'amendement. Voilà, donc les mauvaises herbes, celles qu'on appelle communément les mauvaises herbes que vous avez l'habitude d'arracher, en réalité, ce sont de précieux indicateurs qui sont bien représentatifs du milieu sur lequel vous êtes en train d'imaginer cultiver. Donc la première chose à faire, c'est quand vous arrivez sur un terrain, que ce soit pour faire un jardin ou même pour une grande culture, c'est d'inventorier les mauvaises herbes. Donc en fait, l'idée, c'est de lister toutes les mauvaises herbes, entre guillemets, j'aime pas ce mot, qui poussent sur le sol. Et ça doit se faire dans la durée, ça, saison après saison, bien sûr, hors période de fauchage ou de tonte, et en tenant compte de la concentration de chaque plante.
Alors au lieu de mauvaises herbes, on pourrait dire végétation spontanée.
Ce
qui veut vraiment dire ce que ça veut dire, puisque des graines, il y en a un peu partout sur le sol. Et spontanément, il y a certaines variétés qui vont trouver un sol qui leur correspond et qui vont pousser. Ce sont donc des plantes spontanées. Ainsi, sur le causse, on va trouver le buis, des graines de buis qui vont se retrouver sur le sol. Comme ça demande un sol argilo-calcaire, ça va bien pousser. Et par contre, à la montagne, sur des sols acides, on va trouver du genêt. Parce qu'une graine de genêt sur un sol argilo-calcaire, elle va pas germer, elle n'aura pas les conditions. Mais ça, t'en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais on peut dire les plantes spontanées,
La végétation spontanée, c'est beaucoup plus sympa. Alors, je tiens quand même à indiquer à nos chers auditeurs et nos chères auditrices que les informations qu'on cite aujourd'hui proviennent de Gérard Dusserf, qui est un ancien paysan, botaniste de terrain, et qui a écrit l'encyclopédie des plantes bio-indicatrices. C'est un ouvrage de 3 tomes. aux éditions Promo Nature. Donc bien sûr, on en parle et puis on vous redonnera les références de cette encyclopédie à la fin de l'émission. Voilà, donc c'était juste pour vous expliquer d'où proviennent toutes ces informations. Alors, quand vous êtes en train de regarder le sol, qu'est-ce qui pousse naturellement? Surtout, il ne faut pas hésiter en fait à faire des photographies quand vous tombez sur une plante que vous ne connaissez pas et mesurer afin de connaître évidemment l'identité précise ou la variété. C'est très important. Mais rien n'est totalement figé dans la nature, puisque ça va dépendre des types de sols. Donc, Jackie, peut-être tu pourrais nous faire un petit topo sur les différents types de sols, histoire qu'on comprenne bien tout ça.
Oui, alors les sols différents, en fait, sont là avec une différence de granulométrie, je dirais, des particules qu'ils composent. Hein. Vous avez, par exemple, des sols dits sableux. Alors ça, c'est un sol qui a des avantages. Hein. Il est bien aéré, il se réchauffe vite, mais par contre, il va se refroidir aussi vite. Et les nutriments et l'eau sont souvent mal distribués. On peut parler de sol argileux aussi. Donc là, c'est un sol qui est plutôt difficile à travailler, qui se sature rapidement en eau. Et justement, à cause de ça, ça va au printemps, il tarde à se réchauffer. Mais par contre, la terre y est fertile. Alors, on a aussi des sols limoneux. Alors là, c'est un petit peu entre les deux, hein, entre sableux et argileux. Mm-hmm. Mais c'est sensible au tassement et ça nécessite des apports d'humus, hein, par le compost, etc. Et des apports de calcium aussi. Alors, il y a un quatrième type de sol qui serait bien que vous ayez chez vous. C'est un sol argilo-limoneux.
L'idéal.
Et c'est le sol idéal, exactement. Mmh. Il se travaille facilement, sans se dessécher. Et puis, alors là, tout y pousse facilement.
Le jardin extraordinaire.
Voilà.
Derrière.
Mais en fait, justement, l'intérêt de connaître sa terre, suivant le type de sol qu'on a, c'est d'y apporter ce dont il a besoin pour devenir un sol idéal.
Ouais, très bien. Alors moi, ce que j'ai appris qui m'a beaucoup étonnée en faisant ces recherches sur les plantes bio-indicatrices, c'est que par exemple, on a des plantes bio-indicatrices qui sont capables de nous montrer en fait. Il y a des plantes qui indiquent les menaces de glissement de terrain, d'érosion, d'effondrement. C'est-à-dire que si vous êtes sur un sol en pente et que vous voyez certaines plantes apparaître, ça peut vouloir dire qu'il y a une menace de glissement de terrain, tout simplement. Alors ça va être le cas comme plante du tussilage, ou bien de la grande prêle, ou bien de l'achillée millefeuille.
Voilà, et ça, c'est pourquoi ces glissements possibles. Eh bien, en fait, on va se rendre compte que dans ces plantes-là, elles poussent dans des sols qui sont plutôt sableux, donc qui ne sont pas stables.
Et voilà. Voilà, c'est logique tout ça. Mais la nature est très logique, hein ? On est d'accord,
oui,
Jackie ?
Oui, oui.
Voilà.
Elle a l'expérience de la vie.
Exactement. Ce qu'on peut retenir, si vous voulez retenir qu'une chose peut-être, c'est qu'en général, les plantes à fleurs colorées sont de bons indicateurs. Ça veut dire que ça va plutôt bien, alors que les plantes à fleurs vertes, par exemple, peuvent être signes de pollution. Là, on est quand même sur des généralités. Hein. On va aller dans le détail petit à petit.
Oui, précisons-le. Oui, c'est des généralités parce que ce n'est pas parce que vous avez une plante à inflorescence verte que votre sol est particulier, etc.
Hein. C'est ça.
Attention, c'est des nuances, en fait, hein, et des généralités. Voilà.
Exactement. Et alors, qu'est-ce qui est intéressant de voir ? Ce qui est intéressant de voir, c'est pourquoi une graine qui était là depuis plusieurs années va se mettre d'un coup à germer.
Oui, ce qui revient un petit peu à certains endroits où d'un seul coup, on voit des coquelicots qui poussent ou autres. Et pourtant, personne ne les a semés.
Voilà. D'où ça vient, ça ? Alors, en fait, il existe dans la nature 7000, attention Jackie, 7000 critères de dormance, de levée de dormance, pardon.
Tu ne veux pas me dire que tu vas nous les citer ?
Non, pas tout de suite. Non, ces critères de levée de dormance, comme par exemple un éclair lumineux au moment de labour, ou bien une pluviométrie particulière, ou bien une pollution qui arrive, etc. Bon, il faut quand même qu'une graine cumule plusieurs de ces critères-là pour que la dormance soit levée, c'est-à-dire que la graine se mette à germer. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais avec toutes les actions que l'homme aujourd'hui a sur la nature, eh bien, effectivement, on a vu pas mal de choses bouger. Par exemple, il y avait l'exemple, Jackie, de la renouée du Japon, qui me paraît très intéressant comme exemple. La renouée du Japon, c'est une plante qu'on a essayé d'introduire comme fourrage à l'époque de Marco Polo. Ça n'a pas fonctionné, incultivable. Ensuite, alors pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une plante fourragère hyper à haut rendement, on va dire.
Oui, ça, c'est, hein,
donc
ça
du coup, c'est
pas,
pour ça qu'ils essayaient de l'introduire. Au XVIIIe siècle, ils ont réessayé de l'introduire comme plante mellifère et ornementale. Ça n'a pas fonctionné. D'accord ? Donc on continue avec notre renouée du Japon. Et d'un coup, dans les années 50-60, la plante se met à pousser partout.
Voilà, elle a été cultivée en pépinière et ça a été vendu comme plante ornementale et ça a débordé des jardins.
Voilà, le début du XXe siècle. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la renouée du Japon, c'est une plante dépolluante, tout simplement. En fait, elle va s'installer partout où vous allez trouver des métaux lourds. Et aujourd'hui, c'est une plante invasive au bord de nos rivières, la renouée du Japon, parce qu'elle... Elle croît effectivement et elle prend une surface très, très rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut rester une plante fourragère partant du principe que c'est dans ses rhizomes, c'est-à-dire ses racines traçantes. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui, rhizome, oui. Racines traçantes, ça marche très bien.
J'y arrive.
Racines traçantes à accumulation.
Et ben en fait, c'est dans ses racines qu'elle va piéger les métaux lourds, la renouée du Japon. Alors, en termes de biodiversité, pour nous, elle n'est pas du tout intéressante, hein, parce qu'elle va prendre le pas sur tout le reste. Par contre, pourquoi elle arrive chez nous en bord de rivière et pourquoi elle nous envahit ?
Pour dépolluer,
tout simplement, parce que nos rivières sont pleines d'aluminium, de plomb, d'arsenic, de choses comme ça. Et donc, les bords de rivière...
Et de cochonneries, souvent.
Et de cochonneries, on est bien d'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur... Ah si, il y avait un petit truc intéressant sur la renouée du Japon. C'est que, effectivement, elle est invasive, elle est pas très intéressante, mais aussi elle dépollue. Et puis, par exemple, si vous faites une macération à froid de la renouée du Japon, 48 heures dans de l'eau, et que vous la pulvérisez, on va pouvoir se débarrasser de l'oïdium avec ce purin de renouée du Japon.
Alors ça, c'est intéressant parce que l'oïdium, vous savez, c'est cette petite moisissure blanche qu'on voit sur les feuilles d'érable pourpre en ce moment, sur la vigne hein, aussi, sur vos courgettes, sur les feuilles de courgettes. Donc cette moisissure, eh bien, autant la traiter avec un produit qui est sain, issu de la nature. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de choses, à faire des essais, à nous tenir au courant, bien sûr.
Ah oui, faites des expériences et partagez-nous-les, on sera très contents. voilà, c'était pour l'anecdote de la renouée du Japon. Bon, des anecdotes, malheureusement, sur les plantes bio-indicatrices, on pourrait vous en trouver beaucoup d'autres, mais ce n'est pas le propos. Et ce qu'on pourrait faire là, peut-être, Jackie, c'est citer un petit peu quelques plantes bio-indicatrices les plus courantes et vous expliquer qu'est-ce qu'elles nous indiquent.
Allons-y.
Alors, nous avons le bouton d'or. Tout le monde le connaît, le bouton d'or. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur la terre quand on trouve un bouton d'or ? Eh bien, ça veut dire qu'on est sur une terre à pH acide, qu'elle est humide, lourde et argileuse.
Oui. Alors, donc, c'est une renonculacée. Donc, toutes les renoncules, quand vous voyez des renoncules, eh bien, ça veut dire aussi qu'il y a ce type de terrain.
Très bien. Toutes les renoncules. Alors, après, j'ai le chardon des champs.
Oui.
Le chardon des champs, lui, va pousser sur un sol compacté calcaire, avec peut-être des excès de matière organique.
Voilà, alors là, c'est un petit peu compliqué, cette histoire-là, parce que il lui faut un sol calcaire assez lourd. Et après, c'est surtout, un déséquilibre au niveau de la matière organique qui va faire que ça va bien proliférer. Au fur et à mesure, si j'entretiens ma terre, si je jardine, par exemple, eh bien, je vais arriver à supprimer naturellement ces chardons. Il se disait beaucoup jadis qu'il fallait acheter un terrain qui avait des chardons, ça ferait un beau jardin.
Ah, ben voilà qui me rassure. Merci, voilà. Jackie. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le coquelicot qui va plutôt pousser sur des sols à tendance calcaire ou, comme tu disais tout à l'heure,
En bord des routes, en bord des chemins, un petit peu partout. Ce qu'il y a, c'est que c'est surtout dans des endroits qui étaient dont la terre a été un petit peu travaillée. Des fois, voilà. Un simple binage fait qu'en fait, on va changer un petit peu le biotope au niveau du sol. Et la graine de coquelicot, qui aura pu attendre pendant quelques années sans bouger, va se mettre à germer et ça va faire une belle plante, hein, parce que le coquelicot, ça rassemble tout le monde.
Ah, c'est très beau le coquelicot. Ben, c'est pour ça que quand on construit une maison et qu'on fait les fondations, ben, derrière, on voit pousser plein de coquelicots tout autour de la nouvelle maison, pas tout à fait construite.
On a remué la terre et on a remis à jour ces petites graines et voilà. Et ça se perpétue comme ça depuis des générations.
Mmh. Alors, on a la datura qui est décidément pas bon signe souvent. Et là, qui nous indique qu'on est sur un sol pollué.
Oui. Mmh. Et alors, datura, c'est une plante toxique.
Très toxique.
Très toxique par ses feuilles, par ses fruits, par ses racines, par sa sève. Donc, datura, quand on en voit, il faut mieux la supprimer.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on en voit de plus en plus dans les massifs ornementaux des villes. Ça me fait sourire, moi.
Oui, et oui.
C'est bête hein, de sourire pour ça, mais quand même.
Et oui, mais c'est bien le signe aussi de pollution par les hydrocarbures, etc. Hein.
On est bien d'accord, c'est plus facile. Il y a quand même des plantes typiques, par exemple, qui poussent sur le long des routes, etc. Ben voilà, monoxyde de carbone. Hein. Mmh. Uh-huh. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme plante? On a le grand plantain. Le grand plantain, alors, comme son nom l'indique, le plantain, il pousse sur un sol trop tassé. Donc, en général, sur les chemins, vous allez en trouver du plantain. Mais en fait, ça veut dire que le sol est trop tassé et qu'il manque d'oxygène, ce qui gêne le développement de la vie bactérienne.
Voilà. Et donc, le problème de ce grand plantain, c'est que c'est un peu couvre-sol comme ça et que ça empêche beaucoup d'autres plantes de pousser. Donc, ça empêche quelque part de la biodiversité.
Oui, mais c'est très pratique le plantain, Jackie.
Oui, alors en même temps, le plantain, c'est pratique, ne serait-ce que quand on a eu des piqûres, hein, frotter la peau avec ça. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que la hampe florale devient une hampe à graines et que les oiseaux aiment bien le plantain.
Bien pour les oiseaux. Oh, en parlant d'oiseaux, est-ce que tu as vu, Jackie, cette année, les sorbiers des oiseleurs autour de nous?
Magnifique.
Incroyable. Magnifique.
On a un super aubrac avec ça. Et même dans les vallées, on a...
Et partout, hein, Marjorie, ouais. Le Mont-Lozère. Regardez quand vous allez vous balader, chers auditeurs et chères auditrices. C'est une année à sorbiers des oiseleurs. Ils sont magnifiques. Voilà. C'était la petite aparté. Revenons à nos moutons de plantes bio-indicatrices. Alors, l'ortie que tout le monde connaît.
Oui, eh ben, l'ortie où on peut faire de la soupe.
Ouais, par exemple. En fait, elle va pousser sur un sol humifère avec un excès d'azote, de fer et de matière organique animale éventuellement. Vous voyez, autour des chèvreries, l'ortie.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est là aussi, dans un coin où on veut un peu supprimer des orties, on va ajouter du calcaire, hein, en fait, pour de la chaux, quoi, pour éviter que ça gagne trop. Alors l'ortie, moi au jardin, j'en ai un coin, hein, je garde un coin. Il faut savoir que c'est pas très compliqué à éradiquer parce que ce sont des racines quand même qui sont tout à fait traçantes, hein, en surface de sol. Et c'est bien d'en avoir pour faire des purins d'ortie, pour mettre au pied des tomates,
pour manger les
sommités. Et ça peut même faire après décoction, ça peut faire un engrais foliaire qui fonctionne assez bien.
Mmh. Voilà pour l'ortie. Ensuite, on a la pâquerette, la jolie pâquerette. La pâquerette, vous allez la trouver sur un sol lourd, argileux et acide.
Oui, alors traditionnellement, dans les pelouses, hein, puisque oui. Justement, ça s'acidifie au fur et à mesure. Hein, faut savoir que le sol qui est sous une pelouse, il s'acidifie au fil des années. Et donc, il y a de plus en plus de pâquerettes comme ça. Rappelez que ça s'appelle pâquerette, c'est parce que normalement, ça vient au moment de Pâques.
Ah.
Et cette année, ça a été bien avant Pâques. Ça a été très tôt, parce que comme tu le disais tout à l'heure, on a eu un hiver doux. Et puis là, maintenant, c'est en train d'être remontant. Moi, j'ai vu des pâquerettes ma pelouse à Chirac.
Ça alors.
Voilà.
Tout bouge, tout bouge. Alors ensuite, qu'est-ce que je vous ai trouvé? Le pissenlit. On le connaît bien, le pissenlit. On va le trouver sur un sol riche en humus, une prairie riche, sauf s'il est extrêmement dominant.
Oui. Oui, oui, et ça se passe souvent dans des terrains qu'on a défrichés ou autres et qu'on veut remettre en pré. Dans un premier temps, il y a beaucoup de développement de pissenlit comme ça.
Ouais, ou si on met un peu trop d'engrais, ce qui n'est pas notre cas, mais ce qui est le cas de d'autres.
Voilà, souvent on se rend compte de ça dans les futures prairies agricoles, justement, on a nettoyé, on a mis de l'engrais et tout, et ça profite surtout aux pissenlits. Alors, dans les pelouses, on peut le supprimer avec une gouge. Quand il a bien plu, comme en ce moment, par exemple, aller chercher la racine un peu profond. Et puis, ça peut être une distraction d'y passer une demi-heure par jour et pour avoir une pelouse plus jolie.
Oui, oui, si ça peut vous occuper. Bon, c'est assez zen comme distraction. Oui. Hein, ça peut être tout à fait méditatif. Sinon, vous pouvez les manger aussi, les pissenlits. Hein.
Ben voilà, ça va être au printemps, là, les feuilles sont, les feuilles sont très jeunes. Hein.
On est d'accord. Alors, j'en ai une ou deux autres encore. J'ai la prêle des champs. La prêle des champs qui est assez caractéristique aussi, physiquement parlant. Elle va pousser, elle, sur une terre lourde, acide, humide et un peu tassée quand même.
Oui, alors la prêle qui a des gros avantages hein, aussi en décoction, etc. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à nous demander des fiches techniques sur ces décoctions, sur ce qu'on peut faire avec ces plantes pour traiter au lieu d'utiliser des produits chimiques. Vous pouvez écrire à la radio et puis on vous fera passer des fiches techniques là-dessus pour vous indiquer les recettes.
Voilà, les recettes, avec grand plaisir, on vous les communique. Pour finir, je crois, j'avais le trèfle blanc. On le connaît aussi, le trèfle blanc. Mmh. On va le trouver sur des sols à tendance calcaire, plutôt compactés. Hein.
Voilà, le trèfle blanc, oui, souvent, ça se retrouve même dans les pelouses et tout, au fur et à mesure que ça a été piétiné. Ouais. Mais bon, tout ça, moi, je donne des petites anecdotes là-dessus. Mais tout ça, il ne faut pas oublier que c'est justement l'intérêt, c'est que ça vous précise bien quel est votre sol. Hein. Tout ça, ce sont des plantes bio-indicatrices, même si on peut en faire quelque chose. L'intérêt, c'est de bien regarder ce que vous avez dans votre sol de façon naturelle, parce que ça peut même être dans un jardin d'ornement. Hein. Regardez même les végétaux qu'on a autour de soi. Oui. Planter une haie de thuya, par exemple, autour de vous, il n'y a pas de thuya. au bout d'un moment, ces plantes qui vont être taillées, etc., vont avoir des maladies parce qu'elles ne sont pas adaptées.
Voilà.
Si je vois qu'autour, il y a des cornouillers, il y a du charme, je peux me faire une haie avec des plantes locales comme ça. Là aussi, on a une fiche là-dessus sur la plantation des haies. De grâce, plantons le moins possible de conifères en haies. C'est mon conseil.
Merci, Jackie. Bon, voilà, vous comprendrez qu'on ne peut pas vous faire là tout de suite maintenant l'inventaire de toutes les plantes bio-indicatrices. Mais enfin, si vous souhaitez approfondir le sujet, on a quand même une référence pour tous les jardiniers et paysans qui reste, comme je vous le disais en début de cette chronique, l'encyclopédie des plantes bio-indicatrices de Gérard Dusserf, donc ancien paysan et botaniste de terrain. Une pointure.
Alors, on s'écoute un petit peu de musique maintenant.
Ah, t'en as marre de m'entendre parler, c'est ça?
J'ai pas dit ça.
Oui, on va écouter un petit peu de musique. On va faire une courte pause musicale. Et là, c'est un petit clin d'œil à tous les amoureux du bivouac. Étant donné que l'automne est bien là et que l'hiver arrive, c'est un petit au revoir temporaire au bivouac. Et c'est la Caravane Passe, dernier album, qui chante « Je bivouac ».
Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu piques pas de la tête, tu bivouac. Tu squattes pas la semaine, tu bivouac. Tu tapes pas l'incruste, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu piques pas de la tête, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, yop, yop, yop.
Je passe la nuit sur la route en trek. J'étais mon duvet sur les fils barbelés. Je m'y mis 112D sans réveiller le douanier. Je plante pas ma tente dans l'attente de me faire remarquer. À même le sol sans paillasson, sans welcome. À la belle étoile sous sky sans 4 étoiles. Je bivouaque sur terre, sur bitume, dans les parterres. Je passe en scred jusqu'à Bab El Oued. Tu bivouaques. Tu bivouaques. Tu kiffes juste un break, tu bivouaques. Tu piques pas de la tête, tu bivouaques. Tu squattes pas la semaine, tu bivouaques. Tu tapes pas l'incruste, tu bivouaques. Tu kiffes juste un break, tu bivouaques. Tu piques pas de la tête, tu bivouaques. Tu kiffes juste un break, tu bivouaques. Tu kiffes juste un break, ya, ya, ya.
Je débarque dans ta case, salut à toi Navarro. Trinqué, tchat, j'ai le calumet amigo. Mi canapé, sto canap, je m'avale sur le clic-clac. Et avant que tu me captes, j'aurais tracé pour un autre squat.
Je quitte le bled sans breakfast. Je passe les murs en breakdance. Je me bourre pas, je file à l'anglaise. Je passe en scred jusqu'à Bab El Oued. Tu bivouaques. Tu bivouaques. D'Irak au Danemark, je bivouaque. En passant par les Carpates, je bivouaque. Dans ton parc national, je bivouaque. Sur les bancs de la fac, je bivouaque. Dans les friches, dans les squats, je bivouaque. En appart, en pirate, je bivouaque. C'est nawak, mais je m'en tape, je bivouaque. Je passe en scred jusqu'à Bab El Oued. Tu bivouaques. J'attends pas que l'on m'attrape. Je commette pas dans les squats. En attendant la matraque, je bivouaque. J'attends pas que l'on m'attrape. Je commette pas dans les squats. Quand la matraque me traque, je passe en scred jusqu'à Bab El Oued. Tu bivouaques.
Voilà, nous voici de retour avec Jackie, avec cette petite pause musicale de la Caravane Pass. Je bivouac, merci à eux, c'était très rigolo. Alors, on a vu la grève d'automne, Jackie. On a vu les plantes bio-indicatrices.
Exact.
Et maintenant, passons aux questions d'auditeurs et d'auditrices. Tu es prêt?
J'attends les questions.
Ready, Jackie? Alors, la première. Alors, là, c'est l'histoire du citronnier de Bernadette, demande. Tu te rappelles?
Oui.
Là, on a fait une intervention sur place, hein, parce que parfois, quand il faut, nous, on se déplace. Alors, donc Bernadette demande, nous réécrit. Elle dit, le citronnier que vous avez bien voulu me tailler en février dernier a très bien poussé cet été.
C'est déjà une bonne nouvelle.
Déjà, ça, c'est chouette. Elle dit, il est magnifique. J'aimerais que vous m'indiquiez maintenant ce que je dois faire. Le tailler? Point d'interrogation. Le rentrer dans la véranda? Point d'interrogation. Quels soins puis-je apporter cet hiver à ce citronnier magnifique?
Eh bien, d'abord, bien content que la taille ait bien fonctionné et qu'en fait, ce citronnier se porte bien. Alors, on arrive à l'automne, là, et il faut savoir que ces plantes, comme toutes les plantes, ont besoin d'un repos hivernale. Donc, contrairement à ce que font beaucoup de personnes qui rentrent les citronniers dans la véranda pour qu'ils aient bien chaud pendant l'hiver.
Attention, amis losériens, je le sais que vous le faites tous. Ça. Écoutez bien ce que dit Jackie.
Donc, je vais aménager une période de repos hivernal. Alors, bon, pendant qu'il fait beau, là encore, on peut très bien laisser dehors. Ce qu'il y a, c'est qu'on va les mettre dans un coin un petit peu plus protégé. Se méfier s'il y a des gelées nocturnes, à la limite de mettre un petit voile pendant un moment comme ça. Mais surtout, essayer de les laisser respirer au maximum, d'être dehors au maximum.
Oui.
Mais dès que le froid va arriver... Alors, mon conseil, c'est de mettre dans une pièce qui n'a pas de fenêtre. Genre un garage, par exemple. Normalement, les garages, eh bien, ils ne sont pas chauffés. C'est une plante qui va pouvoir supporter 8, 10, 12 degrés sans problème pendant tout l'hiver. Donc, même, on va essayer de lui chercher un endroit froid. Si l'endroit est froid, la plante ne va pas pousser. Donc, je ne vais pas avoir besoin d'arroser.
Froid et sans lumière, on est
froid
d'accord.
Froid et sans lumière. En fait,
au
un repos.
Sec et à l'eau, les plantes. Allez.
L'idée du repos. Hein, nous, c'est sans lumière aussi quand on se repose. En fait, il faut qu'il n'y ait pas de choses qui forcent la croissance de la plante. Donc, s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de chaleur, la plante va obligatoirement se mettre au repos.
Ça fait bizarre quand même, hein, au cachot.
Voilà, au cachot un petit peu, oui. Et puis alors, ensuite, mais on y reviendra certainement, mais on le taillera, mais on taillera seulement, hein, puisqu'elle me demandait s'il faut le tailler, on taillera simplement au printemps. Pourquoi au printemps ? Parce que rien ne sert de faire des plaies pour que pendant tout l'hiver, il ait à cicatriser ses plaies alors qu'on va le mettre au repos.
Et oui.
Donc, on va le laisser faire comme ça. Et au printemps, on va retailler. Donc, c'était un citronnier qu'on avait taillé un peu en bol, hein, pour avoir une forme un peu comme un arbre fruitier comme ça. Donc, ce qu'on fera, bah, c'est qu'on va supprimer au moment de le sortir. On va supprimer les branches qui poussent vers l'intérieur. Peut-être qu'on va régler un petit peu la hauteur des branches extérieures. Et puis voilà, il va rapidement ensuite fleurir et puis préparer ses fruits. Alors,
ben on va revenir, hein, c'est ça, alors, Bernadette.
On y reviendra.
Il va falloir faire chauffer le café, on va revenir.
On y reviendra. Et d'ailleurs, c'est une histoire à épisode. Et si vous êtes des auditeurs curieux, et ce dont je ne doute pas.
J'espère.
Je vous invite à aller voir sur la page Facebook de notre radio les photos des différentes étapes de la restructuration de ce citronnier. Ils sont visibles et ouais. Pourront vous donner une idée du travail qui a été réalisé. Je vous rappelle pour ceux qui n'étaient ou j'informe ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, c'est qu'au départ, Bernadette était un petit peu affolée parce que son citronnier, il donnait d'un côté des oranges qui n'étaient pas bonnes et de l'autre côté des espèces de citrons qui n'arrivaient pas à maturité, etc. Donc, il a fallu effectivement reconsidérer cet arbre.
Il était complètement déséquilibré au niveau de la greffe.
Voilà. Alors, allez voir sur la page Facebook. Vous pourrez même voir des photos. Et ça peut vous donner aussi l'idée de nous envoyer vos soucis avec photos à l'appui. Hein.
Et oui.
On essaiera de... Il n'y a pas que Bernadette qui mérite nos soins attentifs.
Même si elle est très chouette.
Voilà.
On est d'accord. Oui, alors n'hésitez pas. Vous pouvez toujours réagir et nous envoyer vos questions, vos photos par mail à redac@48fm.org ou sur la page Facebook de la radio, comme Delphine, par exemple. Tu te rappelles cette auditrice-là qui nous a écrit ?
Alors là, ça fait très plaisir. Bon, c'est un petit peu d'autosatisfaction. Mais Delphine nous a écrit parce qu'en fait, c'était une personne qui suivait bien les ateliers à l'époque de Jardinier de France, hein, que j'avais le plaisir, entre autres, hein, d'animer. Elle suivait bien ça. Elle est partie pendant quelques années de Lozère et elle revient. Et voilà, elle nous a fait une demande d'avoir des fiches techniques, hein, que j'avais proposé plusieurs fois, y compris dans cette émission. Eh bien, on va se faire un plaisir de lui envoyer, puisqu'on a son adresse mail, directement les fiches techniques en PDF.
Bonnes fiches de Jackie, n'hésitez pas.
Voilà, vous pouvez aussi faire ce genre de demande.
Ouais, super, merci pour Jackie.
Alors d'autres questions ?
Absolument.
Pendant qu'on y est ?
Alors, allons-y. Celle-là, c'est ma préférée. C'est la question d'Hector de Riotor. Celui-là, il
le
nous
bien
dit,
nommé.
Le bien nommé. J'ai un noyer à proximité de mon potager. Mes légumes ont du mal à pousser. Est-ce lié ? On se moque ou pas ?
On se moque pas.
On se moque jamais d'Hector.
On se moque pas. De toute
Absolument façon,
l'imbécile, c'est celui qui pose pas de questions.
On est bien d'accord.
Donc, ça permet au contraire, hein, à chaque fois d'étendre un petit peu le propos. Alors, le noyer est un arbre qui a une ombre terrible. Ce qu'on appelle une ombre froide, c'est-à-dire que les feuilles font un écran total au niveau de la lumière, du soleil. Et quand on est en dessous, eh ben, on n'a plus du tout de lumière. Donc, quand on est une plante, eh ben, on ne peut pas bien pousser. C'est la raison pour laquelle ces légumes ne poussent pas. En plus, il faut savoir que les feuilles de noyer, quand ils tombent, il y a des essences dans les feuilles qui se répandent au niveau du sol et qui font comme un anti-germinatif.
En fait, la décomposition va libérer, effectivement.
Voilà, ces essences-là qui vont agir comme anti-germinatif.
Voilà.
C'est-à-dire que là aussi, je vais semer mes carottes, mais ça ne va quasiment pas pousser.
Ça ne bougera pas.
Voilà. Autre problème, un noyer est un arbre qui a des racines énormes. Et donc, obligatoirement, un grand réseau de racines qui va être en concurrence avec tout ce que je vais pouvoir planter à son pied. Il va être en concurrence, mais il est beaucoup plus fort. Donc, il va arriver à choper tout un tas d'oligo-éléments dont d'autres plantes auraient besoin. Donc, où on déplace le potager, où on arrache le noyer, parce que de toute façon, ce n'est pas compatible.
Voilà, même à côté, ça ne peut pas fonctionner.
Ça ne peut pas fonctionner parce que... Voilà.
On est bien d'accord.
Et en plus, ça va, comme c'est un arbre à fort développement, ça va aussi beaucoup puiser l'eau qui pourrait être donnée pour le jardin. Donc, où je déplace mon jardin, Alors, j'imagine que l'arbre, il est déjà un petit peu trop gros, donc on ne le déplace pas, mais à ce moment-là, on peut l'arracher aussi. Hein. Il faut choisir.
Il faut choisir les noix ou les légumes.
Voilà.
C'est ça. Il y a autre chose qu'il ne faut pas faire sous un noyer, c'est la sieste. Tu sais pourquoi, Jackie ?
Pour ne pas se prendre une noix sur la tête.
Tu ne fais pas de sieste, toi. Non, parce que le brou de noix en décomposition va dégager des gaz qui sont hyper toxiques, en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit qu'il est dangereux de faire une sieste sous un noyer.
Eh bien, je ne le savais pas, mais je crois que je préfère très nettement la sieste sur mon lit.
Le confort.
Voilà. D'autres questions ?
Alors, oui, écoute, une dernière petite question.
On a encore le temps d'une, si on veut.
Ouais, faut faire très vite. C'est Émilie de Saint-Chély qui nous dit « J'ai un noisetier, les noisettes sont vides. Quelle est la cause et quelles peuvent être les solutions ?»
Alors, le problème là est relativement simple. Hein. Les noisettes se sont formées mais sont vides.
Oui.
Ça veut dire simplement que c'est un problème de pollinisation.
Ah. Hein.
La plante elle-même a pu développer la cosse qu'il y a autour, mais il n'y a pas eu de fécondation pour qu'en fait l'amande, qui est le véritable fruit, hein, qui est la graine en même temps, puisse se développer.
Ah.
Il faut savoir que souvent les noisetiers sont auto-stériles et il faut mettre plusieurs noisetiers pour arriver à ce que ça se féconde.
Alors, auto-fertile, j'avais déjà entendu.
Oui.
Auto-stérile, j'avais jamais entendu
si,
ça.
Si, mais parce que tu ne m'as pas toujours écouté.
Ah, désolé.
Parce que le prunier Reine-Claude, par exemple, je t'avais dit, il est auto-stérile. Donc, pour mémoire. plaisanterie mise à part. Ce sont des végétaux qui... souvent dans la nature, on ne s'en rend pas compte parce qu'un noisetier donne toujours des noisettes, mais quand vous regardez bien, il y en a plein d'autres autour.
Ah oui, mais toujours, c'est des...
Voilà.
Et c'est super, le noisetier.
Si possible, mettre des variétés de noisettes différentes, d'ailleurs. La pollinisation va être... Parce que c'est une pollinisation difficile. Pour une raison simple, c'est que le noisetier, il est pollinisé non pas par les insectes, mais par le vent. C'est pour ça qu'il y a des chatons au noisetier.
Oui, hein, exact. Ceux qui ont des chatons, on en avait parlé, ça.
Voilà, chatons, donc des fleurs mâles qui sont regroupées comme ça, qui vont produire du pollen. Et c'est le vent qui va amener ce pollen sur les toutes petites fleurs rouges de 4 tout petits pétales au bout de bourgeons de noisetier. Voilà.
Et
il y a une petite fleur femelle qui est rouge comme ça, très petite. Hein, il faut au mois de mars regarder ça. C'est avec les enfants, c'est super.
C'est très joli.
Voilà.
Bon, super. Merci d'avoir répondu à ces trois questions d'auditeurs, Jackie. Comme il nous reste peu de temps, on va passer à l'agenda des activités. Et je crois que tu nous en as trouvé quelques-unes du côté de ton association Jardin Nature 48 qui redémarre comme la chenille. Olé, bon. Vas-y, Jackie.
Voilà, sur Jardin Nature 48, donc il y a plusieurs ateliers. Alors bien sûr, là aussi, hein, en respectant les gestes barrières, on le dira jamais assez, hein, méfions-nous. Donc en tout cas, ce sera organisé de cette façon-là. Donc pensez à prendre vos masques. Donc, il y a un atelier « Tout savoir sur le compost » qui va se dérouler le 10 octobre à 14h30, qui sera animé par Marion Thibault. Et c'est chez Jeannette Julien à Ispagnac.
OK.
Le travail du sol, ça fera aussi le thème d'un atelier le 17 novembre à 20h. Alors ça, c'est un mardi. Hein, le compost, c'était un samedi. 17 novembre, mardi à 20h, ça se déroule en salle Amande avec Jean-Paul Paradis qui l'anime.
Un intervenant très intéressant à nouveau, je vous invite à y aller.
Voilà, donc plus de précisions sur le site Jardin Nature 48, hein, c'est vraiment tout à fait bien détaillé, ils ont un site qui est toujours mis à jour. Donc Jardin au pluriel et puis Nature et 48. Et vous aurez un maximum de précisions.
Parfait, merci Jackie. Alors, je voulais vous annoncer deux ateliers gratuits et des ateliers zéro déchet qui sont organisés avec le plan local de prévention des déchets Centre Lozère. Hein. Toujours pareil, donc inscription obligatoire, place limitée. Hein. Pour cause de corona. Si ces ateliers vous intéressent, je vous le dis de suite, vous pouvez contacter Céline Janvier au 07 87 61 76 79. Et alors, ces ateliers, on en a un ce samedi, là. Samedi 3 octobre, zéro déchet à la maison. Donc, le matin de 9h à 11h30 à Brenoux, à la salle des fêtes. Et l'après-midi, le même à Barjac, à la salle des fêtes, de 14h à 16h30. Et là, on vous présentera des astuces zéro déchet, des recettes anti-gaspi, la fabrication maison d'un produit multi-usage, pardon, démonstration de fabrication d'un wrap alimentaire, etc., etc. De quoi tout fabriquer à la maison. Samedi 3 octobre et ensuite le samedi 10 octobre, un atelier de fabrication de cosmétiques naturels, toujours dans le cadre du plan local de prévention des déchets. Et donc là, ce sera le matin à Barjac de 9h à 11h30 à la salle Saint-Véran. On vous expliquera comment fabriquer un déodorant maison, un liniment naturel pour les bébés et il y aura aussi une démonstration de fabrication d'une huile pour le visage ainsi que des astuces pour un quotidien zéro déchet dans la salle de bain.
Ah, intéressant.
Tu vas y aller, Jackie?
c'est pas sûr, mais ça me paraît très intéressant.
Mais presque. Voilà. Écoutez, notre émission touche à sa fin. Maintenant, tiens, qu'est-ce que t'en dis, Jackie? T'as autre chose à dire ou on est au bout?
Eh bien, je crois qu'on est au bout.
Je crois qu'on a tout dit.
Enfin, on n'a pas tout dit, on reviendra dans 15 jours.
Toujours pareil, on ne va pas vous laisser comme ça. Alors, ben, on va vous quitter en musique, hein, comme d'habitude. Et là, on va vous faire entendre Aïwa, qui va nous chanter Salama. Et pour la petite anecdote, Aïwa était en concert à Mende, là, au mois de septembre, sur le Foirail, dans le cadre de 48e de rue. Je les ai vus, qu'est-ce que c'était bien! C'était un concert gratuit, encore une fois.
Oui, encore une fois.
Comme
oui.
Il y en a beaucoup, sortez, les gens, n'hésitez pas avec vos masques. Voilà. Eh bien, écoutez, on dit au revoir, Jackie.
Eh bien, au revoir à tous.
Et à bientôt pour de nouvelles aventures nature.
يا حبابنا رحبوا بالعالم. Come on.